Yo, l'ami, qu'on aura dans quelques temps à nos micros, c'est le gars Jean-Jean qui s'en occupe. Nous sommes toujours en direct, en live et en public du festival Comptant pour Rien. Nous sommes à Mantes-la-Ville, au parc de la Vallée, et on vous invite à nous y rejoindre aujourd'hui, demain ou après-demain.
Vous écoutez Prospective à Évreux, son de contact dans le sud de l'Eure, 95.9 et partout ailleurs sur prospective.net. Principe actif, le mix des cultures.
Et puis entre deux mobilettes, une ressourcerie, une scène et tout ce qui se passe sur ce parc de la Vallée, nous poursuivons nos échanges et nos discussions. Et nous avons Julie du gang des Suricates perchée avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour.
Ça va bien, ça se passe bien ce début de festival.
Comme d'habitude avec les copains de Contemporain, ça se passe toujours bien.
Voilà, alors le gang du Suricates perchée, c'est une antenne, c'est une spécificité en tout cas du Carude du coin. La zone, j'ai du mal à définir, mais...
Alors en fait, on a un lieu d'accueil fixe basé sur Mantes-la-Jolie et on intervient sur l'ensemble du département avec des unités mobiles, des programmes échanges de seringues et puis cette fameuse antenne festive qui nous permet de faire des interventions sous l'angle de stand pour essayer de toucher le plus de monde possible, de permettre aux gens d'avoir des repères en matière d'usage de drogue. En dehors de tout jugement, ce qui est pas le plus simple pour la plupart des usagers consommateurs de substances illicites. Voilà, nous, ça, c'est notre métier de pouvoir aborder ces questions-là avec eux sans tabou et de pouvoir donner des repères vérifiés et vérifiables qui permettent de construire des stratégies de préservation de la santé.
C'est ce qu'on appelle dans le langage un peu plus commun la réduction des risques sur les conduites à risque, c'est ça?
Sur l'usage de drogue, la sécurité drogue, ouais. D'ailleurs, parce qu'on fait un pont entre les deux. Hein. Nous, on est là vraiment pour les usagers de drogue, mais on sait qu'il y a des tabous aussi autour des questions sexuelles, et donc du coup, on fait aussi l'usage de risque, la réduction des risques, l'usage de risque. Non, on ne fait pas. La réduction des risques liés à la sexualité aussi, hein, puisqu'il y a une histoire commune, hein, ne serait-ce qu'avec la question du VIH.
Tout à fait. Alors, revenons deux secondes sur le Carude, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est un Carude. C'est une organisation départementale. Il y en a dans tous les départements, c'est ça?
Tout à fait. Ce sont des établissements sociaux, médico-sociaux, présents sur l'ensemble des départements du territoire national. L'idée étant de pouvoir accueillir des personnes qui sont usagères actives, de leur proposer à la fois du matériel stérile à usage unique par rapport à leur pratique, donc que ce soit l'injection, le sniff ou le fait de fumer, notamment du crack. De mener des entretiens autour des questions de consommation. Et puis, bien sûr, parce que la question numéro un est généralement pas la question de l'usage de drogue, mais des questions de contexte socio-économique et de vulnérabilité créée par notre façon de construire notre société. Donc, de travailler aussi l'accès aux droits, l'accès aux soins, de faire de la médiation à chaque fois que c'est nécessaire. De participer à des veilles sanitaires aussi pour savoir ce qu'il y a comme produit, à quel niveau de pureté, et d'adapter nos messages aussi en fonction de ça.
On pourrait se dire l'usager de drogue, finalement, c'est l'expert en la matière. Peut-être même lui-même pense qu'il est en pleine maîtrise de la question, vu qu'il est usager. Qu'en est-il?
Eh ben, c'est pas complètement faux et loin d'être con comme question, pour la faire très prosaïquement, parce que souvent on apprend énormément aussi de nos usagers. Effectivement, il y a un certain nombre d'usagers qui sont experts, mais il y a aussi un certain nombre d'usagers qui sont quelque part en proie avec des questions de légende urbaine, de représentation, parce qu'il y a un gros tabou autour de la question de l'usage de drogue. Je parle vraiment des drogues illicites, l'héroïne, la cocaïne ont des représentations, et il s'agit aussi à un moment de pouvoir essayer de parler vrai avec des données scientifiques. Et de pouvoir essayer d'accompagner au mieux les gens dans leur pratique. Un monde sans drogue, nous on y croit moyennement. Donc comment on fait une fois que c'est là.
C'est en dehors de tout, tout jugement légal, mais moral également. C'est-à-dire que quand on vient voir les Suricates perchés, le gang des Suricates perchés, finalement, on ne se dit pas qu'il y a la police qui va interpeller derrière ou il ne va pas y avoir un signalement spécifique derrière.
Absolument. L'idée, c'est effectivement justement que nos dispositifs sont normalement protégés. Après, c'est plus ou moins bien suivi suivant les territoires et suivant les commissariats. Mais normalement, nos usagers, tous ceux qui rentrent sur nos dispositifs, ne peuvent pas être contrôlés dans ce cadre-là. Après, c'est avec plus ou moins de bonheur, hein, bien évidemment. Des fois, il faut faire des petits rappels, hein, quand même aussi au niveau des autorités locales. C'est un travail de longue haleine. Là aussi, ça s'appelle de la médiation, d'ailleurs, pour la blague. Parce que ce n'est pas que par rapport aux nuisances que font nos usagers. Des fois, les nuisances, elles sont autres. Des fois, les représentations pèsent lourd. Et l'idée, c'est vraiment l'usager de drogue, c'est vous, moi, tout le monde, toute personne usant de produits. Et ça peut être dans un cadre festif, comme ça peut être dans un cadre plus chronicisé, on va dire. Quoi qu'il arrive, les risques sont quand même assez semblables. Et le fait de pouvoir en discuter change quand même énormément la donne. On le voit régulièrement. On le voit dans un certain nombre de pays qui ont changé leur réglementation. On est quand même dans un pays d'Europe avec toujours des réglementations excessivement dures par rapport aux usagers de produits illicites. D'ailleurs, ce serait bien que ces produits ne soient plus illicites, d'ailleurs, par la même occasion. Ça réglerait pas mal de problèmes et ça soulagerait énormément, d'ailleurs, le poids financier pour les contribuables. Peut-être que ce serait intéressant que cet argent-là soit mis dans l'éducation et dans le soin et beaucoup moins dans la répression. Mais ça, c'est un combat qu'on mène aussi, d'ailleurs, pour la blague. Voilà, bon. Mais le travail se poursuit et malgré ces difficultés légales, nous, l'idée, en tout cas, ça reste dans l'ensemble des carrières de France d'accueillir les gens en dehors vraiment de tout jugement moral, parce que ce jugement-là, il ne permet pas de parler.
C'est en fait, finalement, plus on les bat de tabou, finalement, plus les choses pourront être réglées au niveau santé, notamment, parce que forcément, une pratique à risque, une consommation de drogue non échangée, non discutée, finalement, ne permet pas d'aller au-devant des problématiques qui pourraient être liées et finalement c'est les découvrir après coup.
Bah, tout à fait, et puis c'est souvent des découvertes qui coûtent assez cher au niveau santé et pour les personnes d'un point de vue individuel, hein, on ne va pas sous-estimer ce que peut faire un VIH ou ce que peuvent faire des hépatites. Pour le coup, au niveau de la société, c'est gigantesque aussi. Prendre les choses en amont et permettre à chacun d'être responsable par rapport à ses pratiques, c'est aussi garantir plus de facilité pour tout le monde à l'arrivée, pas que pour les usagers de drogue, mais pour la société en général. En tout cas, nous, on en est convaincus. Et c'est ce que l'expérience montre aussi dans d'autres pays d'Europe et du monde.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des comparatifs parce que toutes les législations n'en sont pas au même point. On a des pays hyper restrictifs, hyper répressifs, d'autres qui ont laissé des marges de manœuvre à peu près sur... Enfin, des marges de manœuvre en tout cas, qui ont changé le statut de l'usager, en fait. Parce que c'est une question de statut de l'usager aussi.
Le statut des produits aussi. Il y a des pays qui ont dépénalisé un certain nombre de produits ou une quantité de produits, d'ailleurs, où les gens peuvent se balader avec sans que ce soit passible d'amende ou passible de prison, parce que chez nous c'est quand même passible de prison, hein. On a régulièrement des usagers qui font des peines pour des questions de consommation. Pour rappeler que ces peines-là, elles amènent les gens à avoir des vies qui sont de plus en plus précarisées, de plus en plus vulnérabilisées, et c'est pas l'usage de drogue qui fait ça, c'est vraiment la réglementation, puisque effectivement, se taper 3 mois de prison, c'est un bail qui saute, c'est une famille parfois qui explose, c'est un emploi qui saute, tout à fait. Donc, de toute façon, on se rend compte que de peine de prison en peine de prison, les gens ne s'arrêtent pas forcément de consommer, ça c'est très clair. Et d'ailleurs, il y a de la consommation en prison, hein, je suis désolée de le dire, ça aussi c'est tabou, mais la drogue se balade quand même plutôt bien en prison, c'est même une des monnaies d'échange en tôle. Effectivement, ça pose un certain nombre de difficultés supplémentaires, cette question de pénalisation de l'usage, de criminalisation de l'usage. On a fait encore une journée internationale. Il faut se rappeler que le 26 juin est une journée support Don't Punish. J'en ai le joyeux t-shirt. Voilà. Nous avons fait d'ailleurs un événement avec des concerts en essayant d'ouvrir un maximum la discussion sur ces questions de réglementation. Oui, on a des comparatifs. Oui, on a des résultats. Oui, effectivement, ça fait près de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, que l'ONU est revenue sur la question de la guerre à la drogue, qui a avait été lancé à l'époque, il faut se rappeler, par Nixon, hein, quand même. Ça situe à peu près le cadre, hein, je ne vais pas faire...
Puis les enjeux politiques qui sont avec, en fait. Hein,
totalement.
C'est pas lancé par un organisme de santé,
c'est par la politique. Totalement, c'est des questions politiques qui sont derrière ça, de stigmatisation de certaines franges de la population, de marginalisation de ces franges-là. Voilà, il faut se poser les bonnes questions au bon moment, il me semble, et essayer d'être un peu critique sur cette question-là. Nous ne sommes pas un pays unique avec des humains totalement pas comme les autres. Nous fonctionnons comme la plupart des humains de cette planète. Et du coup, on peut regarder un certain nombre d'études et on devrait pouvoir s'en inspirer. Il y a eu des avancées dans beaucoup de pays d'Europe et dans quelques pays du monde qui sont quand même assez éclairantes sur le fait que dépénaliser l'usage, sans parler d'aller plus loin que cette question-là, mais ne serait-ce que dépénaliser l'usage permet de gérer aussi des questions de santé publique de manière beaucoup plus sereine, avec moins de paradoxes, ce qui n'est pas encore la situation en France, et c'est à déplorer.
Très bien, merci beaucoup Julie, c'est extrêmement clair. Mais non, mais c'est pour le coup, voilà, ça fait partie.
Je vous remercie, c'est un exercice qui n'est pas simple.
C'est ça qui a été réalisé avec brio, Julie,
merci,
vraiment. Donc je rappelle, Julie Dugong des Suricates Perchées.
Carbici de la parole, 78. Voilà, et on en a également un établissement sur le 92 qui fait aussi du gros boulot. Et on salue tous les collègues de l'ensemble de la France dont les Carbici font un travail souvent méconnu, mais très utile pour tout le monde.
Voilà, et on a une petite pensée pour les gens qui nous écoutent sur Évreux, le Carbici d'Évreux, où c'est Greg notamment qui fait un super boulot. On a eu l'occasion de recevoir régulièrement également à nos micros.
Bien, au top, merci encore à vous.
Merci Julie. Vinci, je me retourne vers vous et vous propose une courte pause musicale. Je vous laisse l'entière voilà, de je sens ce que vous voulez en fait, Vinci. Et puis on se retrouve juste après avec Yolis.
Thank you.
Avocat que vous retrouverez sur ce festival Comptant pour rien dès demain sur le parc de la Vallée à l'occasion de cette deuxième journée du festival Comptant pour rien à Mantaville.
Comme une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
L'exclusion de la mauvaise qualité du son, dont à vous, ça fait une dépendance de nos institutions.
C'est pas mal, Johnny, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'était pourquoi ?
Prospective à Évreux, 102.4, dans le sud de l'heure, 95.9. Prospective, le mix des cultures.
Et toujours en direct du festival, Comptant pour rien, nous poursuivons nos échanges, nos rencontres, nos discussions, nos papotages avec ceux qui font ce festival. Et nous sommes avec Tristan, Djokos et Romain de Yo La Mif. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Et sans votre nom de groupe, ce serait quasiment une question, une invitation à l'échange, quoi. Yo La Mif, quoi. Il y a un côté vraiment invitant, en fait, rien dans l'approche,
c'est comme le nom de groupe. C'est la famille en fait, parce qu'on est, un groupe qui vient d'une colocation en fait.
Ah oui.
Et du coup,
comme étant une étudiante ou pas?
Non, pas forcément, colocation. Dans le thème, c'est un peu ça, quoi.
Ouais, c'était ça dans le thème, c'était finalement en sortie d'études. On était en études ensemble.
D'accord, ouais. Donc, il y a un lien quand même qui est le lien du copinage qui fait qu'on arrive sur une coloc. Vous étiez que trois dans la coloc?
Quatre,
ouais.
C'est ça. Il y avait un autre musicien.
D'accord. Mais il joue pas dans Yo La Mif.
Non, il fait les remix pour nous.
Ah, ouais, oui. Donc, il est quand même pas loin de la Mif, justement.
Et c'est bon, le placement des et c'est putain de producteur, il est trop chaud.
Ah ben voilà, ça c'est fait. Donc c'est vraiment la mif, quoi. Ça y est, c'est fait, c'est posé. Dans une ambiance rock teintée d'électro tout de même, énergique bien entendu. Ce sont des influences communes, ce sont des télescopages d'influences réciproques. Comment ça se passe sur ces créations électro-rock, je sais pas. Vous avez le droit, ouais, de le définir autrement, hein.
Télescopage, je pense, parce qu'à la base c'était pas du tout parti pour ça, et avec le mélange en fait des influences de tout le monde, c'est devenu un peu pourri de tout ce qu'on écoute chacun.
Du coup, dans les influences des uns des autres, on écoute quoi? Il y a quoi dans les bagnoles? Il y a quoi sur la chaîne IFI, sur le pick-up? Ouais, Romain.
De mon côté, c'est très techno, art-tech, trance, musique électronique, vraiment à tendance autoroute, on va dire.
Ouais, musique de trance, quoi.
Ouais, voilà.
C'est ça.
Ouais.
Du côté de Djokos?
Moi, de la musique un peu énergique, genre Prodigy, Beastie Boys, où tu prends à chaque morceau une dose d'énergie dans la gueule.
C'est trip-hop quand même. Non?
Un peu aussi, ouais, mais ouais.
De danser.
Ouais.
Et du coup, Tristan?
Et moi, bah, pareil, il y a beaucoup de musique électronique, plutôt de la trance, de la mélodique des années 90, mais aussi beaucoup de musique genre jazz, Brad Meldow, beaucoup de pianistes, de saxophonistes avec plein de mélodies mélancoliques et voilà.
Et donc, quand tout ça se télescope, on monte l'ampli et c'est Yo La Mif, c'est ça?
Voilà.
C'est ça à peu près l'idée. Et du coup, ça travaille comment? Alors, on répète, ça travaille pas en coloc quand même? Ça travaille en locaux de répète? Ça travaille comment?
Si, il y en a qui disent si, non?
Non,
non, non, non. Non, ça travaille comment du coup, Yo La Mif?
Bah, la coloc, c'est fini depuis, on n'est plus en coloc actuellement.
Ouais.
C'est, le groupe a démarré quand on était en coloc, c'est plus le cas. Et maintenant, en fait, on continue plutôt par répète, plutôt par résidence. On se prend vraiment une semaine où on bosse à mort. On se remet une semaine deux mois plus tard, c'est plus ça le modèle, quoi.
Sur les résidences, c'est des accompagnements de salles de diffusion, salles d'accompagnement. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a tout un réseau. Alors là, j'explique un petit peu pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément au jus du fonctionnement des résidences, notamment, mais bien souvent, elles sont faites par des structures. Elles sont proposées par des structures, des salles de diffusion, des structures d'accompagnement. C'est ça pour vous?
Ben, en fait, c'est ça. Il y a différents types de résidences pour nous. Il y a vraiment, comme tu dis, il y a des résidences avec des structures d'accompagnement. On a du scénique. On répète le set, le spectacle, parce qu'on est en condition. Par contre, si on revient sur le côté plus création, nous, on fait plus de résidences de création où on s'enferme dans des chambres, dans des conditions pitoyables, où juste il faut qu'on enregistre à l'iPhone, tu vois, nos répètes. Et si ça sonne à l'iPhone, ça sonnera en concert. Donc nous, on fait beaucoup de résidences en mode vraiment homemade pour vraiment la composition et genre, on dort dans la même pièce, on joue dans la même pièce et on est dans notre mood.
Ah, c'est vraiment chercher l'isolement du monde extérieur, c'est ça, et rester en huis clos jusqu'à ce que ça sorte.
Ouais, jusqu'à ce qu'on n'en peut plus les uns des autres. On a envie de voir d'autres personnes.
Comment ça marche au niveau de la vous abordiez vos influences respectives, le lieu, la façon dont ça se passe, mais alors globalement, la création, c'est comment est-ce qu'on a un chef de file qui arrive avec des partitions qui distribuent à tout le monde, ou au bout d'un moment, c'est sur le bœuf que ça peut jouer, ou des formules intermédiaires?
Franchement, il y a un peu tous les modèles. Des fois, c'est le batteur qui arrive à un riff de batterie, même des fois le piano. Des fois, c'est le guitariste qui arrive avec une idée de mélodie que je reprends à la basse, qui finalement est changée à la guitare. Enfin, vraiment, il n'y a pas de compositeur attitré, je dirais. Quoi. Chaque morceau vient un peu de personnes différentes. Quoi.
C'est quoi? C'est des morceaux qui tournent à l'infini jusqu'à ce qu'on trouve un bon feeling? Non, comment ça se passe?
Ouais, c'est horrible.
Non, mais il y a des sessions de travail comme ça, des fois, où le truc tourne à l'infini jusqu'à ce qu'on trouve un peu. On essaie des choses, quoi, qu'on expérimente, on tâtonne, ça peut être ça aussi.
Ouais, c'est ça. C'est grave ça. Il y a des fois où c'est très écrit et selon le riff, tu sais que ça dure 20 secondes. Mais il y a parfois, il faut vraiment rester dans une transe, progresser et peu importe les riffs qu'on fait et les compos, il y a toujours une phase où on passe par la grosse méthode de travail aussi qu'on a, nous, c'est baisser le métronome et on travaille à des niveaux de métronome hyper bas, hyper long. Et c'est là où on peut vraiment développer aussi des phrasés, du lyrique, des tricks. Genre, on baisse le tempo et c'est une grosse piste de recherche. Et après, on accélère aussi. Avec ça, une fois que c'est au point, on renvoie le métronome tout en bas là.
C'est ça. Et on le fait pour. Non, mais c'est intéressant comme façon d'aborder aussi les sessions de travail. Une fois que c'est fait, le morceau il est gravé dans le marbre, on n'y touche plus ou c'est des choses qui
sont
amenées à évoluer tout le temps? Ouais.
Ouais.
C'est vivant. Et alors, c'est vivant comment d'un concert à l'autre? C'est des moments où on revisite des morceaux déjà écrits il y a un moment? Comment ça se passe? Ah, je veux tout savoir. Hein. Je fais la petite souris dans le local de répète. Jouer, c'est peut-être une occasion.
Hein. J'allais faire une interview comme ça, c'est cool. Là, actuellement, notre set, c'est un peu un mélange de morceaux qu'on a rodé depuis 2-3 ans. Et il y en a 5 qui sont vraiment tout nouveaux, qui sortent à peine du four, qui eux, pour le coup, sont moins rodés. Donc, ça nous arrive pas de revisser les morceaux, comme il y a un mec qui sont obligés de faire le tournant. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de règles.
Ouais, ça se discute collectivement. Celui-là, il m'emmerde, j'aimerais bien en faire autre chose. C'est ça, il y a un peu de. Parce qu'il faut s'amuser aussi. Enfin, avant tout, jouer de la musique, c'est jouer, en fait. Hein. Tout est dit dans le mot, c'est jouer, quoi.
Ouais, et quand tu fais les mêmes morceaux tous les jours, pas tous les jours non plus, mais que ça fait 60-70 fois que tu les fais, c'est bien d'avoir toujours cette fraîcheur. Parce que je pense que tu la transmets plus facilement au public si toi-même t'es content d'être sur scène et de jouer ces morceaux, quoi.
Ouais, puis c'est je joue, il joue avec le public, joue aussi, ça fonctionne comme ça. Ouais. Sur les sonorités, vous êtes accompagné par quelqu'un, un ingé son par exemple attitré, je sais pas, par un qui aurait peut-être une formation, je sais pas, pour la côté, on va dire, le piment du grain, quoi.
Ben, en vrai, à ce niveau-là, on est vraiment. On fait ça nous trois. On fait un os d'os, on n'a pas d'ingé son. On bosse avec un ingé son, mais en fait, malheureusement, l'économie des tournées qu'on a aujourd'hui ne permet pas de tourner avec lui. Donc, c'est ça qui est aussi compliqué. Mais on travaille avec un ingé son, mais pour le live, mais tout ce qui va être du travail de studio. En tout cas, pour ce qu'on a fait jusqu'ici, on a vraiment bossé que nous trois. Mais tout le monde travaille un peu sur les sons de tout le monde, c'est ça qui est intéressant. On est tous compositeurs et on est tous multi-instrumentistes. Donc, on joue nos instruments. C'est même pas la prédilection, mais on joue les instruments sur lesquels on est le plus à l'aise et le plus habitué. Mais tout le monde joue tous les instruments globalement dans ce groupe.
Regarde. Donc ça permet ouais, effectivement d'avoir le regard même sur ce que fait l'autre tout en étant légitime en fait, même de se dire au bout d'un moment là ton grain là dans les basses ou dans machin je le vois pas comme ça. Forcément quand on est multi-instrumentiste et quand on échange avec les gens, forcément on est plus légitime pour pouvoir le dire et puis se faire entendre aussi tout simplement.
Et pour aussi, ouais. Montrer ce que toi tu as dans la tête, parce que si tu dis ah, ça serait bien de faire nanana, le mec qui l'a fait,
tu joues pas de la vie.
Ouais.
Voilà, mais c'est vrai. Et en plus, il y a déjà l'expérience, hein. Des morceaux, on en a écrit. Alors quand il y a une personne, un des trois, qui l'aime pas, bah finalement on joue plus. Donc ça n'a pas d'intérêt en fait. Il faut que ça plaise à tout le monde.
Ouais. Les projets, l'avancée de Yolami, ça se projette comment dans l'avenir on dit quoi, enfin, comment ça se projette?
Eh bien, hier, on a signé notre plus grosse date. On joue le 6 octobre au Mazette, à la Mazette, à Paris. C'est, en fait, il y a eu un changement de nom, c'est la Nouvelle Concrète. Donc, le gros club de musique électronique. On n'a jamais fait une date comme ça, en tout cas, sur Paris. Donc, 6 octobre, et c'est l'occasion de la sortie de notre deuxième disque.
Ah, ça c'est pas mal en plus si ça tombe. Ça c'est cool. J'imagine que c'est des trucs hyper motivants dans la vie d'un groupe comme ça, signer la grosse date, avoir le disque qui sort à peu près dans le même tempo. Ça doit être plutôt sympa ça, non?
Ouais, ça avance quoi. Ça fait plaisir d'être sur quelque chose qui bouge quoi, qui ne recule pas au moins.
Après, pas avancer, c'est déjà reculer. Hein.
C'est vrai. Bah, dans ce cas-là, ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est le côté avancé, quoi. On s'est dit, il y a un an, on arrête de jouer sur Paris. Les conditions, elles sont éclatées à chaque fois. Enfin, on s'est
arrivé d'avoir des endroits où c'est fait kiffer pour pouvoir jouer. Hein.
Ouais, on a perdu de l'argent, mais grave, ça arrive. Et maintenant, on dit qu'on a le Covid, tu vois, quand on perd de l'argent. C'est ça, en vrai.
Bah, non, mais c'est ça, ou non, on va pas perdre de l'argent à jouer non plus, faut pas déconner.
Ah, non, c'est clair, ça reste notre métier quand même. Donc,
ouais, c'est ça. C'est la fois beaucoup qui perdent de l'argent normalement pour aller bosser. Hein. En tout cas, dans ce cas-là, c'est au plus court.
Et sinon, on fait un concept, on fait une entreprise dépositaire.
Ouais, c'est ça, c'est le début.
Tous les cinq là, et on se dit, on fait un business et on fait ça.
On va se planter, mais avec panache. Ouais. Et ça, c'est important.
C'est grave, et avec le sourire du bon sens.
Merci en tout cas beaucoup, Tristan, Glocos et puis Romain de Yolami, d'être passé par nos micros. Merci beaucoup, les auditeurs ne le voient pas, mais vous aviez le sourire tout au long et ça fait plaisir, ça aussi. On sent que voilà, ça donne envie de partager. Merci beaucoup à vous, Yolami.
Merci.
À bientôt. Vinci, je me retourne à nouveau vers toi en te proposant une pause musicale de ton choix. Peut-être la Caravane Passe que nous allons recevoir dans un tout petit instant à nos micros. Thank you.
décalage, fais-moi payer cash. Toutes les inégalités, qu'importe le match. Mais il faut que tu saches que de sous ma moustache, je suis une autre place pour toi, ma cache. Maria, Maria, calage, fais-moi la guerre, fais-moi l'amour. Maria, Maria, calage, chasse la libère, chasse le tout.
Ça va bien se passer. C'est juste, je veux pas bosser la précision sur ma voix, je vais juste l'envoyer comme ça. Et c'est t'arrives pas la tête au-dessus. Ok?
Voilà, c'était la réunion juste quelques minutes avant l'ouverture des portes de cette première soirée du Festival Contemporain à Mantes-la-Ville, au Parc de la Vallée, où on vous invite à nous y rejoindre ce soir, à venir également demain et après-demain. C'est le 1er, 2, 3 juillet, spectacle de rue, concert d'exception, c'est là que ça se passe, n'hésitez pas à venir. Nous poursuivons nos échanges, nos discussions, nos papotages avec ceux qui font la vie de ce festival, et nous avons Thomas et Lux de la Caravane Pass avec nous. Bonjour à vous, messieurs.
Salut. Salut, bonsoir. Alors, la Caravane Pass, je ne sais pas si on peut, si on doit représenter ou pas, mais en tout cas, vous naviguez dans un univers de voyage, de musique tzigane, de l'humour, de l'amour, des mots, mélange festif, de nombreuses années de route et de concerts, de nombreuses collaborations et des
échanges aussi avec d'autres artistes. C'est un petit peu votre spécialité. J'ai oublié quelque chose dans la description ou pas? On peut
c'est libre, c'est très bien. T'as fait ça très bien, bravo.
Non, ça représente bien la Caravane Pass.
C'est ça. Alors, sur ce projet Caravane Pass, il y a eu de très longues. On est quasiment à 20 ans, c'est ça, de route. Hein,
j'ai pas on a plusieurs anniversaires parce qu'il y a différentes dates d'entrée des membres du groupe.
Ah, ils s'achètent entrée.
Donc, il y a un anniversaire. En fait, ça a été créé en 2000, en 2001, en 2003 et en 2004.
Voilà. En tout cas, ça fait 15 ans qu'on est le même.
Ça fait 16 ans qu'on est le 16 ans qu'on est le même. Et ça fait, Hughes et moi, ça fait 22 ans.
C'est ça, vous étiez sur ensemble initialement.
C'est le même temps qu'on est amoureux.
La Caravane Pass, comment est-ce qu'on fait pour mélanger justement toutes ces influences, les approprier, en faire quelque chose de partagé, partageable, quand on est influencé de tant de choses?
Alors, c'est vraiment ce qui nous a réunis au départ, c'est le fait qu'on écoute de toutes les musiques. On part pas du principe qu'on voulait faire un groupe de reggae, un groupe de salsa ou un groupe de punk. On part du principe qu'il y a du bon dans toutes les musiques. Et l'idée à la base, c'était on partait du constat que finalement en France, on est en manque de musique traditionnelle parce que depuis Napoléon, en gros, et la centralisation, on va faire un petit cours d'histoire, les patois régionaux étaient interdits ainsi que les musiques régionales. Il n'y a que les Bretons, les Auvergnats qui ont résisté. Et Hughes, qui est catalan et moi qui suis une famille d'Europe de l'Est, on avait envie finalement avec les folklores que nous on connaissait de faire revivre une musique folklorique française, mais qui soit une musique finalement moderne, c'est-à-dire une musique d'immigrés.
Ouais. Et dans la musique nomade, qui bouge beaucoup.
Mais c'est ça, oui, il y a cette question-là qui est très contemporaine, finalement, elle est mêlée au hip-hop aussi, je ne l'ai pas fait dans la présentation. Il y a le hip-hop, il y a les mots, et les mots, ça compte aussi aujourd'hui.
C'est actuel,
c'est la musique très actuelle.
Voilà. Exactement, mais c'est, on aime bien dire que c'est de la chanson française, en fait, parce que finalement,
la chanson française,
c'est le mélange, voilà, parce que la France, c'est ça, la France, c'est un mélange. On a grandi dans une époque où le slogan, c'était la France, terre d'accueil, je pense que toi aussi. C'était ce que disait le grand philosophe Berruyer Noir, qui disait nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération, et c'est un petit peu ça l'idée, voilà, l'idée de la Caravane Pass, c'est ça, c'est en fait de la musique française dans ce sens-là.
Ouais,
et
puis c'est important de parler de ça, parce que c'est ça qu'on vit en fait.
Tout à fait, et puis c'est comme ça qu'on s'y reconnaît aussi, tout ce temps qu'on est, là tu évoquais Lux catalan, moi-même j'ai des racines du côté d'Espagne, et même un peu plus loin. Chacun finalement, personne est quelque part précisément, tout le monde est un mélange de tout. Et finalement, on s'y retrouve à travers la musique. On a l'habitude de dire, nous, à la radio, qu'il y a deux choses qui unissent les peuples, c'est la musique et la bouffe.
C'est ça qui nous rassemble, quoi. C'est partager ça, quoi. Partager la bouffe, partager la musique, partager les bons moments où on vit bien, où on se sent bien, quoi. On est heureux.
C'est ça. Et derrière, il y a le rire, il y a la danse, il y a tout ce qui fait qu'on va être en échange. Et justement, cette caravane passe. Finalement, il y a cette notion de la caravane qui passe et puis on la prend ou on la voit passer. Voilà. Chacun a son choix, hein, de toute façon. Mais il y a vraiment cette invitation au partage
et au voyage.
Et au voyage, exactement. Le voyage, vous le faites aussi, enfin, vous jouez un peu partout. J'avais regardé, là, vous avez joué en Irak, en Turquie, en Allemagne. Là, je parle pour des pays qui sont pas francophones.
On revient d'Algérie,
là. Là, vous revenez d'Algérie. Ça parle un peu plus français du côté de...
Ah oui, c'est facile.
Voilà. Mais justement, comment... je reviens un peu sur l'Algérie, parce que j'aimerais bien faire juste un petit moment sur l'Algérie, si vous le voulez bien.
Sans problème.
Mais je vous parle un petit peu l'Irak, la Turquie, l'Allemagne, sur des pays, finalement, où la langue est une barrière, une frontière, en tout cas, si ce n'est pas une barrière, c'est au moins une frontière. Votre musique, moi, je trouve, elle nécessite d'avoir les mots, quand même.
Bah, nous, elle casse un peu la barrière. Elle casse un peu ses barrières, en fait.
Oui. C'est un autre pareil ou finalement il y a un autre
Alors en fait on présente les shows en anglais.
D'accord, ouais.
On présente les titres en anglais pour que ce soit compréhensible.
Tout le monde puisse comprendre.
Et puis après, les textes, finalement il y a toujours des hooks dans les paroles. Il y a toujours des mots qui ressortent que tout le monde comprend, qui sont internationaux, ouais, dans lesquels les gens vont pouvoir rebondir. Donc et comme il y a un background très folklorique dans la musique, c'est ce qui nous a permis finalement depuis le début de faire un tour du monde.
Et puis, avec un temps d'esprit aussi de l'écrire. structure de la caravane face, c'est-à-dire de récupérer ces mots pour que les gens s'y retrouvent.
Et sur l'écriture, il y a une fausse simplitude d'écriture, en fait, qu'on va retrouver finalement. Elle donnerait presque la sensation d'une écriture simple, d'une écriture pour tout le monde, en fait. Loin de là, la réalité, parce que quand on écoute un petit peu, qu'on décortique ou autre, je disais, il y a l'humour qui est quand même très présent, il y a un festival d'allitération quand même dans les textes, dans les choses qui claquent, ça devient presque un instrument de musique au bout d'un moment, le reste. Merde, j'ai pas de question au bout, mais en tout cas, j'étais sur le
instrument de musique. En fait, moi, ce que je veux dire, ça, c'est l'équipe de Thomas. C'est lui qui fait ça, en fait, hein. Attention, hein, c'est lui qui kiffe pour faire ça, quoi. Moi, ce que je cherche, toujours, en fait, avant de faire la caravane passe, avant 2000 en gros, je faisais de la chanson française et ça m'a pris la tête. Ça m'a pris la tête, ce côté franco-français, la langue française qui n'est pas facile à faire chanter, etc. Et finalement, avec la caravane passe, au début, on a fait des musiques instrumentales avant que je me mette à écrire pour le projet. Et finalement, j'ai cherché une certaine fluidité sonore. C'est-à-dire que j'ai complètement changé de méthode dans la caravane. Je pars d'une musique, je commence à faire un yaourt, quelque chose qui sonne, et après, je vais me contraindre dans l'écriture pour que ça sonne et que ça sonne le plus fluide possible. Et comme je disais, en trouvant des accroches, des choses les plus internationales possibles. Et effectivement, le but à la fin, et je suis content si c'est ce que tu as ressenti, c'est que ça paraît simple à écouter. Et voilà, c'est ce que disait Picasso, qu'il a passé sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant de 5 ans. Et bah, moi, je crois que
c'est de mettre de la musique sur les mots, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais,
c'est des mots. C'est-à-dire que les mots, il ne faut pas que ce soit un truc qui pète à l'oreille juste parce que ça veut dire ça. Mmh. Juste que ça rentre dans la musique.
Et faire que la langue française sonne, parce que ce n'est pas une langue facile à chanter.
C'est ce qu'on trouve aujourd'hui, alors, avec plein d'exceptions et plein de talents dans tous les styles ou autres, mais c'est ce qu'on trouve peut-être un peu plus dans le rap, notamment aujourd'hui.
Mmh. Aujourd'hui, hein, d'ailleurs. En fait, le rap, dès le début, qu'on considérait comme une sous-culture, finalement, les rimes qu'il faisait intuitivement, il reprenait en essayant de faire quelque chose de très simple et très brut, il reprenait les rimes des grands rhétoriqueurs, de ceux qui ont inventé la poésie en France en réalité, de casser le mot en deux et de faire rimer le milieu d'un mot avec autre chose, etc. Eux, ils faisaient ça intuitivement et très tôt, en fait, c'était aussi riche que les rimes de Georges Brassens qu'il y avait dans le hip-hop. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme tu le disais, naturellement dans la caravane, ça chante mais ça rappe aussi parce que c'est un moyen d'expression et que ça permet justement de mettre du débit et des mots, quoi.
Et puis c'est pas être dans un cadre, c'est tout sauf un cadre, la caravane passe, ça pourrait donner même parfois la sensation d'un truc qui traque, où on y retrouve tout sans peut-être
même
tout
en fait,
voilà, c'est ça, mais parfois même sans nous-mêmes en faire la distinction, voilà, quand ça part, ce qui est pas bien grave d'ailleurs.
Non, mais avec le temps, on a appris, quoi. On a appris au début, on mettait tout. Au début, franchement, tu écoutes les premiers albums, il y a tout dedans, quoi. C'est carrément un espéranto qu'on a créé avec tous les mots de... Tiens, il y a ça, j'ai entendu ça, on était tous les deux en train de se dire, ah, mais ça veut dire ça, dans toutes les langues différentes, ah, vas-y, on fait un morceau qu'avec ça, quoi. Et après, au bout d'un moment, Thomas, il a commencé à dire, bah, on comprend rien, quand même, là, ça touche que certaines personnes, tout le monde s'y retrouve pas, ça serait bien de trouver un fil conducteur à ce qu'on dit, tu vois, de trouver des vrais mots, quoi, d'utiliser la langue française pour vraiment poser le truc, quoi.
Et puis, il y a eu aussi toutes les collaborations avec d'autres artistes, dont je crois que le point commun est l'amour du mot, quand même. Pas forcément l'univers musical, mais l'amour du mot. Alors, je ne sais pas tous les nommer, mais moi, il y a celles qui m'ont marqué, c'est son Severino, c'est Erwan, notamment.
Avec chacun leur univers musical.
Tout à fait, oui. Avec des collaborations et tout. Et finalement, ça aussi, c'est une richesse, au bout d'un moment, enfin, toutes les formations musicales ou tous les groupes n'ont pas comme, je ne sais pas comment dire, des collaborations aussi régulières et aussi riches. Ça, c'est la rencontre aussi, c'est le voyage vers l'intérieur, c'est les échanges.
Alors, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir une maison de disque et que tu veux sortir un album, ils disent tout de suite, bon, il faut des guests. Tu vois ça comme un argument commercial. Nous, c'était pas ça du tout, la démarche. La démarche, c'est que nous, on a commencé, on était très humbles, on était fans de beaucoup de gens et on avait juste envie de leur proposer de rentrer dans notre délire, de rentrer dans notre caravane et d'intégrer leur univers au nôtre. Et c'est comme ça qu'on est allé voir effectivement San Severino et Juan, etc. Et Rachita, qui est notre Habibi.
Et bien justement, j'allais y venir, vous revenez il y a très très peu de temps, il y a quelques jours, d'une tournée en Algérie. Il y avait Rachita, effectivement, avec qui vous aviez travaillé. Rachita, qui était ce grand artiste franco-algérien qui a mené des, j'ai presque envie de dire, différentes carrières musicales en une. En tout cas, c'était un rocker quand c'était pas si simple que ça d'être un rocker algérien.
Qui chantait en arabe.
Qui chantait en arabe, exactement. Et il y a eu cette rencontre, vous avez travaillé du coup avec Rachid Taha. Il y a eu quelque chose de particulier dans cette rencontre et dans cette façon de, enfin, dans le travail avec lui.
Très particulier. En réalité, au départ, ça ne s'est pas fait parce qu'on l'a souhaité. Ça s'est fait par l'intermédiaire de Philippe Jupin, qui est le fondateur de la Belle Lilloise à Paris, qui était un des plus vieux amis de Rachid au début des années 80. C'est d'ailleurs Rachid qui lui avait vendu la Belle Lilloise, pour la petite histoire. Et Philippe Jupin, il coproduisait notre troisième album. Il nous a proposé, ça vous dit, je vous ramène Rachid sur un titre, on lui a dit why not. Et à 2h du mat, quelques jours après, mon téléphone sonne chez moi, le fixe. Je décroche, je dis qui m'appelle chez moi. Allô, c'est Rachid, écoute ça. Et il me fait écouter une maquette à nous, qu'il était avec Juju. Et puis il dit, je me sentais là-dessus. C'est comme ça, c'est pas nous qui avons choisi Rachid, c'est Rachid qui nous a choisi, déjà.
Ouais.
Et puis on s'est rencontrés au studio comme ça, on a commencé à faire un premier titre ensemble sur le troisième album, puis du temps a passé, on a fait un quatrième album sans lui, cinquième album, on l'a réinvité pour un titre. Et puis. Et on le connaissait en fait comme un invité à ce moment-là.
Oui, mais c'est prestigieux. Là, on peut rester juste au premier titre qu'on a fait avec lui.
Voilà.
On s'est dit, ben, ça, tiens, il y a un guest qui vient, ben merci, à bientôt. Voilà. Mais non, tu es resté. Ça est devenu un peu la famille. Ben, c'est devenu on se côtoyait plus
voilà, on jouait à Paris, il passait au concert, on était sur scène.
On allait aussi le voir et on se croisait dans les bars le soir et on discutait et il y avait tout un truc.
Et quand je lui ai proposé de refaire un titre, au début c'est la chanson Baba que je lui ai proposé pour lui, pour un album à lui. Et il me dit, écoute, c'est le bordel en ce moment, mon label, tout ça, je sais pas où j'en suis, on fait ça sur un album de la caravane. Et donc il me dit, je lui dis, bah, viens à la maison, je t'enregistre chez moi. Et donc il vient parce que Rachid se réveillait que la nuit, enfin ne vivait que la nuit, il se levait à 17h, il se couchait à 10h. C'était un oiseau de nuit, un vrai. Et il débarque à la maison, Hughes était là, on était tous les deux avec quelques amis. Et on enregistre la chanson en une heure. Franchement, en une heure, il a écrit le texte, on a fait sa partie. Et après, il me dit, laisse-nous brancher, on va créer. Et là, j'ai pris une guitare, il a enregistré la voix. On a fait un premier titre, j'y croyais pas. Le truc était super. Et on a improvisé 12 titres dans la nuit. Et après, dès qu'il avait des coups de capard, il me dit, Thomas, je peux passer chez toi, on fait la musique. Il venait faire de la musique. Et un an après ça, il m'a demandé de faire son dernier album. Et donc, j'ai travaillé avec lui intimement. Ça a duré 2 ans et demi, presque 3 ans, sur ce qui a été son dernier album, puisqu'on a fini le master et juste avant qu'il décède, en réalité. Donc, c'est plus qu'une. Ça a été une aventure qui nous a surpris. Et finalement, on a appris à connaître vraiment là. Parce qu'avant, c'était exactement comme dit Hughes. Avant, c'était un copain prestigieux, mais qui était cool et qu'on rencontrait
dans les concerts. On a juste une fois pour faire une maquette, pour enregistrer un truc, un album. Le guest, comme la plupart. Le guest, il vient, et puis une femme. Et là, non, là c'est tout.
Et ça continue. Et moi, j'ai vraiment découvert, d'une part, la richesse de sa discographie en travaillant avec lui, parce que je connaissais que les choses connues.
Et puis l'être aussi.
Et d'autre part, j'ai découvert à quel point lui le savait, mais pas moi. Rachid le savait, mais pas moi, à quel point on était cousins musicaux. C'est-à-dire qu'en découvrant sa musique, c'est pour ça qu'il nous aimait. J'ai découvert que dans tous ses albums, il y a toute la richesse. En fait, tout ce qu'on fait, si j'avais connu ses albums, on aurait pu nous dire, en fait, tu copies Rachid Taha à ta sauce, quoi. Et c'était hallucinant, on avait le même univers, les mêmes jeux de mots, les mêmes références musicales. On était cousins musicaux, vraiment, quoi. Vraiment.
Ouais. Et donc, comme je disais, il y a une tournée en Algérie, là, dernière semaine.
Ouais. Voilà, on a pu faire cette tournée avec l'Institut français. Alors, c'est ce que j'avais posté quand on a annoncé la tournée sur la page de la caravane. Cette tournée, il m'avait promis qu'on la ferait ensemble, Rachid. Quand on faisait l'album, il m'a dit, on fera la tournée ensemble, je t'emmènerai en Algérie, parce que j'y étais jamais allé. Moi, je commencerai ma tournée, je suis africain. Depuis l'Afrique, et on fera avec la caravane et on remontera ensemble jusqu'à Paris, on fera tous les pays d'Afrique puis les pays d'Europe. On était censé le faire ensemble, malheureusement il est parti avant.
Et finalement elle est arrivée 2 ans après sa mort.
2018, 4 ans.
4 ans après sa mort. Enfin, quand on a commencé à en parler 2-3 ans, on va aller en Algérie.
Non mais sérieux,
on va faire une tournée en Algérie.
Et on l'a fait, hein. Voilà.
Et bien, fait, donc, on a profité pour aller le voir. Quoi.
Alors, il faut savoir, c'est ça. En fait, quand on a fait la tournée en Égypte, c'était avec les instituts français, ils n'avaient pas prévu de nous emmener voir les pyramides. Alors, on les a fêchés. On a dit, on est en Égypte, on va les voir.
On essaie quand même à chaque fois.
Donc là, on est en Algérie, on a fait pareil. On a dit, nous, on va aller voir Rachid. Donc, c'était dans un tout petit bled qui s'appelle Sik, qui est à côté d'Oran, Oran, qui est une grosse ville. Ils ont dû annuler un transport pour nous. C'était prévu en avion simple. Ils nous ont fait revenir à Alger, faire un
quart. Ouais,
le chauffeur, il voulait plus y aller.
On nous a rien proposé au niveau touristique. Alors on s'est dit on va organiser.
On est en retard, il disait on peut pas aller au cimetière. Je dis si on va pas au cimetière, je te préviens, je rentre à Paris.
Mais non, mais je m'en suis occupé. Je me suis
dit qu'il va aller, j'ai rigolé. Après, ouais. Il a ambiancé.
J'ai ambiancé le chauffeur Fatah, il s'appelait Fatah.
Et Alger,
non,
salut,
non, non. Alger, il fallait faire Alger Oran.
Alger, il était content.
Il devait nous ramener à un hôtel à Oran. Et moi, mon but, c'était, j'étais avec lui devant, 46 degrés. 46 degrés faisait là quand on est sorti et tout.
Et nous, on n'avait pas la clim.
Non.
Lui, il voulait pas la clim parce qu'il fallait chanter le soir, sinon ça
casse la voix.
Il y avait le bâton qui était malade et tout.
Tout le monde est dans le bus, quoi, 46 degrés, quoi. Avec, on arrive à l'aire d'autoroute, que des gars, t'es
attends,
des
barbus, attends, non, le pire, c'est pour trouver. Parce que pour trouver, c'est un bled, là-bas, t'as pas un cimetière municipal. Non. Donc, j'appelle un des meilleurs amis de Rachid, Toufik, qui est à Paris avec WhatsApp. Je dis, Toufik, comment je fais pour trouver le cimetière? Parce que le chauffeur, il sait pas.
Mais le chauffeur m'a dit,
alors, Toufik, il appelle la cousine de Rachid. Et on est en direct par Internet. Il dit, en fait, tu vas à Sig, tu vas dans un café ou n'importe qui dans la rue, tu demandes Rachita où il est le cimetière. Et ils vont vous indiquer. Ouais. Et effectivement, c'était un jeu de piste.
J'étais devant avec le chauffeur, on arrive et tout, on demande à une première personne, nous envoie un cimetière, c'est pas le haut. Sidi Belouan. Il fallait trouver Sidi Belouan. Et on s'est trouvé à Sidi, je sais pas quoi, Sidi, je sais pas quoi, c'était à chaque fois, c'était pas
le tour des Sidi, quoi.
Voilà, on a fait le tour des Sidi. Jusqu'au moment où le chauffeur a dit non, il faut aller à la gare routière. On demande à un chauffeur, et lui, il nous dira. Et là, super précis. Et là, c'était hallucinant. Parce qu'on est passé par des petites routes, on a un truc. Et... Il est là, il est là.
T'arrives direct sur les tombes, en fait, comme quasi dans un endroit très désertique. Et puis, on s'est dit, comment on va trouver Rachid? Du bus, on l'a vu.
Il y avait deux tombes, c'était écrit en nous, en français, en
écriture latine.
En écriture latine, pas en arabe. C'était écrit en arabe.
Et au final, moi, on était très touchés, évidemment, d'être là-bas. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir pour Rachid, c'est que Rachid, les gens ne savent pas forcément, c'était un fan de cinéma absolu. On l'appelait Monsieur Cinéma, d'ailleurs, ses amis. Et c'était l'été incollable, et en particulier des westerns.
Ben là,
et sa tombe, ce cimetière-là, c'est le cimetière de Sergio Leone. Ouais. Il est dans son western à lui. Quoi.
Et je le répète parce que je le dis à chaque fois, il manque juste le petit cactus sec.
Même le cactus, il ne vit pas là-bas, il fait trop.
Même le petit truc, non, la petite campagne là qui tourne. Là,
ah oui, il a le ballon de paille.
Tu vois, t'as tous les
branches mortes.
Voilà.
Donc c'était magique, voilà. On a pu boucler une boucle importante pour nous, en tout cas, en allant le voir.
Sur une tournée en institut français, comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est pas comme une tournée ordinaire, c'est dans le cadre du réseau, la culture. Et vous connaissez ça? Et là, à propos, c'est une vraie question de curieux.
Alors, ça dépend des pays, mais pour nous, pour la plupart du temps, on joue pour les locaux, on joue pas pour les Français, etc. Parce que la Caravane Pass, c'est un groupe que les gens se renseignent sur ce que c'est, etc. Et en particulier, et après, ça dépend comment les instituts sont implantés dans les pays. Et par exemple, en Algérie, c'est très intéressant parce que les instituts français dans chaque ville, c'est comme des médiathèques. C'est-à-dire qu'il y a c'est que des Algériens qui sont adhérents, ils ont les programmes, ils reçoivent ce qui se passe, etc. Donc on a joué devant 98% d'Algériens à chaque concert. On fait pas des concerts de planqués, c'est pas l'idée quoi. Ça nous est
arrivé.
En toute une tournée, ça nous est arrivé une fois et demie de faire des concerts de planqués et on l'avait pas voulu.
Non, les instituts français, ça reste quand même avec un travail avec les locaux quoi.
Ouais,
c'est les Français qui sont là-bas vraiment. Et ils font un très très bon travail parce que t'as les directeurs d'institut puis les acolytes qui sont à côté qui gèrent. Donc il y a toute une culture, un patrimoine et tout ça français qu'on offre au pays. Ça dépend dans quel pays où on va, mais en tout cas là ils ont toute la littérature, tous les trucs, ils ont accès à tous les et des cours de français et des cours de et surtout là par exemple en Algérie il y a beaucoup sur toutes les places de marché il y a des écrivains publics. Parce que les gens ne parlent pas forcément le français et ils ne savent pas l'écrire. Donc, tu as des gens qui écrivent pour régler tous les problèmes administratifs. Les problèmes administratifs. Donc, là, l'Institut français joue un gros rôle par rapport à ce genre de choses. Et ceux qui sont intéressés, notamment les jeunes qui viennent à nos concerts et tout, ben voilà, ils sont pris dans leur nom. On leur offre un concert français. Enfin, on arrive avec notre groupe. Et,
Et on a ponctué tous les concerts, on finit toujours nos concerts en fanfare dans le public. Et là, on a intégré Yaraya à notre répertoire, qui est une chanson de Darman El Arachi, mais que Rachita a rendu célèbre dans le monde entier. Et d'habitude, on joue le thème en instru, là, on n'avait même pas besoin de jouer le. On jouait juste le thème et la partie de chant, c'est tout le public qui chantait. Dans chaque bande, ça s'est passé pareil, donc là, bon, on est très ému. Quand
ça, on a fait 5 concerts là-bas, ça s'est passé 5 fois comme ça, ça ne se passera pas ailleurs.
Non.
Ça se passera que là-bas.
C'est le lien justement avec quand justement il y a un ancrage sur l'endroit où on joue, on est sur le patrimoine aussi local finalement avec.
Et ça, ça a du sens.
C'est
un sens. Le fait d'aller que la caravane passe, elle est là-bas. Avec Rachid.
En fait, d'habitude, on a toujours tourné dans la caravane dans le monde entier. On a acheté des instruments de musique dans les pays. On a entendu du son. On a pris de la culture. Et là, c'est peut-être une des premières fois qu'on allait dans un pays. On avait déjà la culture et on avait juste besoin de leur rendre en fait.
Oui, parce que quand on va au Japon, en Thaïlande, et qu'on fait,
on connaît pas la culture.
On n'a pas forcément. Ça fait 4 fois qu'on va au Japon, donc on commence à avoir un peu de. On sait maintenant, on commence à connaître un peu, mais.
Ça reste de l'imprégnation du moment et pas du vécu sur la durée. Et ça, j'allais dire, ça n'a rien à voir. C'est déjà bien, hein, c'est pas agréable, mais c'est pas la même chose quand on est.
Et surtout là, on
est infusé en fait.
Oui, voilà, on est nombreux à avoir grandi à Paris, moi dans un quartier algérien. Ça avait tellement de sens.
Bien sûr, avec l'Algérie, on a une relation avec l'Algérie qui est autant tumultueuse qu'intime finalement. Et même aujourd'hui, il y a encore ces rapports ambivalents. Qui sont quand même de l'ordre de l'intime, quand même, avec l'Algérie.
Exactement.
Elle est française aussi. Ouais, c'est vraiment. Parce que là, quand on va en Algérie, moi j'y avais déjà été, mais quand tu arrives là-bas, c'est espagnol, t'as l'impression d'être à Nice. Enfin, tous les. J'étais à Alger,
c'était les colonies.
Les colonies, quoi. Il y a quand même. On te parle de ça, quoi.
Et j'ai ressenti, effectivement, par rapport à ce que tu dis, j'ai toujours vu les interviews de certains pieds noirs en France qui étaient très émus quand ils parlaient de l'Algérie, en disant l'Algérie c'est dans mon cœur, etc. Et je comprenais pas. Et en étant là-bas, je comprends. Effectivement, il y a une douceur. J'adore les pays du Maghreb, mais l'Algérie qui est plus fermée, on y a moins accès. Et j'ai découvert une douceur que je connaissais pas dans les autres pays du Maghreb, une façon d'être effectivement qui est assez intime.
Parce que t'as la côté du Maroc et de la Tunisie bouffée par tout ce qui est tourisme et tout ça, ou que ça efface énormément de choses, quoi. Donc là c'est authentique, quoi.
Et puis il y a beaucoup de villes qui sont devenues des mégapoles du monde en fait, et peu importe où on atterrit, on atterrit au même endroit, quoi. En fait, on atterrit au même endroit.
C'est ça.
C'était quoi le film de Tati comme ça?
D'Andy Warhol qui résume bien ça. Il disait: Paris est la plus belle ville du monde parce qu'il y a un McDonald's, New York est la plus belle ville du monde parce qu'il y a un McDonald's, Tokyo est la plus belle ville du monde parce qu'il y a un etc. etc. Donc voilà, c'est l'uniformisation.
Hein. Exactement. Et merde, chercher le film de Tati là où il atterrissait.
Monsieur Hulot, les vacances de Monsieur Hulot,
le truc. Playtime. Playtime.
Merci Jean-Jean. Et si Rachita était là, il l'aurait sorti avant nous.
Ah ben, c'est certain.
Tu ne pouvais pas juste commencer à dire un truc de cinéma sans qu'il réponde.
En tout cas, merci beaucoup à vous, Hughes, et puis Thomas, d'être passé par nos micros. La caravane passe. On vous retrouve ce soir sur la scène aux alentours de J'ai perdu l'heure, mais il y aura du retard.
Ça approche, hein.
Ça approche.
Donc, ça ne veut pas qu'encore sur vous, venez, hein.
Ah oui, c'est égaré un moment, oui. On était bien, quoi.
On est bien.
Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci par nos micros. La caravane passe sur le festival contemporain. Au bout d'un moment, dans pas bien longtemps, de toute façon.
Et alors, attends, contemporain. Pourquoi contemporain, tu sais ou pas?
Parce qu'il faut pas grand chose pour être contemporain.
Je crois que c'est la philosophie un petit peu de l'association À chacun son cirque.
D'accord.
Donc l'association qui porte le festival, c'est À chacun son cirque. Ce sont des gens qui portent des valeurs de partage, humanistes, de participation, des valeurs sociales, des valeurs. C'était un autre monde en fait, celle d'un autre monde quand même, celui où beaucoup d'entre nous y croyons un peu plus que celui dans lequel on vit en tout cas.
Quand j'étais petit, je rêvais d'un autre monde. Ça aurait pu faire une chanson.
Ça marchera pas.
Parce que Mouir, il a dit que ça marcherait pas.
Voilà. En tout
cas, si tu nous écoutes.
Content pour lui, en tout cas, c'est une bonne motivation.
Et ce sera une
motivation
de ce festival.
Et à très bientôt.
Merci à vous.
Et si vous êtes à l'éparage, venez nous voir, on est encore là.
Et on y manquera pas. Hein. Eh, il manquerait plus que ça. C'est ce soir, c'est la caravane passe, c'est ce soir. Si vous ratez le train pour ce soir, il y a celui de demain et celui d'après-demain. Spectacle de rue, concert d'exception. C'est ici que ça se joue, dans une scénographie assez exceptionnelle. Pour un moment de la mobilette, il y a une course de lenteur qui va être organisée tout à l'heure. Vinci, je me retourne vers vous. Si vous voulez bien m'envoyer un petit peu de musique, c'est vous qui voyez. Là, je vous laisse faire. Non, c'est vous qui voyez. Non, je vois dans votre regard que vous cherchez de l'aide. Débrouillez-vous, madame. Merci à vous, messieurs.
Afin de t'aider, tu me complètes. On te donne des coups sur le sexe. La vie se fait, on va envoyer la paix. Vous êtes qui trouvent des gorilles, le monde est là, mais les gorilles, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Et quand tu dis, tu vas t'en sortir, nous on est les plus amènes à lui. Et si nous allons manger les gorilles, est-ce pas bon, je suis là.
Et Et nous sommes toujours en direct en live et en public du festival Content pour Rien qui se déroule aujourd'hui le 1er juillet, mais aussi demain et après-demain le 2 et 3 juillet. Spectacle de rue, programmation musicale de qualité et puis tous les stands tout autour, des associations, des exposants et la vie de ce festival. Pour conclure, on comptait pas partir à pied comme ça, on comptait repartir en mobylette parce que la mobylette, c'est la classe. Et nous sommes avec Jean-Marie et Constantino, les brèves déjantées, c'est ça qu'on dit. Hein. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment ça se passe pour vous, bien?
Ça se passe très bien, ouais.
Très 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 bien.
Alors là, vous êtes du coup venu avec toute une rafale de mobylettes, le truc qui pourrait presque paraître passé de mode, la mobylette, et qui finalement a un charme fou.
En fait, ça revient à la mode, et du coup, c'est plus que d'actualité avec le prix de l'essence et du gasoil. Du coup, en moyen de locomotion, c'est en fait, c'est l'idéal, quoi.
Ça consomme rien.
Ça consomme rien.
Ça prend son temps.
C'est ça.
Et alors,
on apprécie le paysage.
Bah ouais, on profite. Et puis, il y a ce petit bruit de la mobylette et cette odeur de la mobylette.
L'odeur de temps en temps.
Ben voilà. Le truc qui nous renvoie, moi, ça me renvoie dans l'adolescence, dans la fin d'adolescence, directement. Hein, c'est pas compliqué. Moi, ça me renvoie direct. Il y en avait chez Proust, c'était l'odeur de la madeleine. Bah, c'est plutôt l'odeur du mélange, quoi.
C'est ça.
c'est ça l'idée. Vous avez toute une série de mobylettes, certaines qui sont super vieilles, hein, en fait. Hein. Il y en a des années 60, c'est ça, 70.
Oui, la plus vieille, elle est de 1957.
Ouais.
Donc, c'est le modèle de nos grands-pères, en gros.
Ouais, c'est ça, hein, c'est ça.
Ouais. Dans les premiers modèles quoi, de bleu, ils appelaient ça une
bleue. C'est ça, les bleus.
Ouais. La bleue pour aller au boulot, faire les petits déplacements, parce que la voiture, c'était trop cher à cette époque-là. Donc, ça a révolutionné un peu le moyen de locomotion à l'époque. Et du coup, ça va le révolutionner une deuxième fois, je pense, aujourd'hui, quoi.
Bah, carrément. Et puis moi, ça me rappelle aux années collège, notamment. Enfin, j'imagine pour vous, c'était les 14 ans où on avait le droit de conduire une meule. Et puis, ça a changé la vie, en fait.
La liberté.
Liberté. Bah ouais, c'était ça. On pouvait même être à deux ou à trois dessus, hein, parce que tout le monde n'avait pas une. Et c'était le plaisir de ça. Je crois que quasiment tout le monde est passé par là. Au bout d'un moment, quoi. On a toujours une bonne partie, en tout cas.
Oui, une bonne partie, effectivement, ouais.
Et puis, dans les modèles qu'on a là, alors, il y a une 103 ou pas dans CMPK
Il y a pas de Peugeot ce soir.
Ouais, ouais.
Sans garage.
Mais il y en avait quelques-unes qui passaient quand même. La 51, par exemple, celle-là, c'est un classique.
Un classique, ouais. Donc, mobylette des années 80. Qui est assez fiable et qui est encore toujours fiable aujourd'hui, quoi.
Alors justement, quand vous faites garage mobilette, hein, c'est ça si j'ai bien compris. Et puis la location aussi, c'est-à-dire qu'on part en vacances en mob, comment ça fait
en fait en balade, donc soit à l'heure, soit la demi-journée, soit la journée. Et en fait, c'est une activité un peu à la carte. Donc, à voir avec le groupe, les étapes, chez les artisans, des producteurs, soit on s'arrête au restaurant, soit on mène le pique-nique. Et puis à terme, c'est de faire avec bivouac, donc partir sur plusieurs jours.
Avec des sacoches.
Avec les sacoches.
Ouais. Et 4 croûtes qui va avec. Bah ouais, c'est ça. Faire une balade à mobylette, c'est au-delà d'être un moyen de transport, c'est une philosophie, c'est une façon d'aborder la balade, non?
Voilà, c'est ça, c'est prendre son temps et puis faire des arrêts, prendre le temps de vivre, quoi, et découvrir le paysage, les artisans, tout ce qu'il y a autour de chez nous, quoi, en fait.
Alors, justement, quand vous organisez une balade, c'est vous qui les organisez, les balades,
oui.
Voilà, il n'y a pas comme point d'étape. Qu'est-ce qu'on repère comme point d'étape compatible avec une balade en meule?
Eh ben, on cherche un peu l'authentique, quoi, donc c'est-à-dire le producteur qui produit tout sur place et qui peut faire découvrir ce qu'il produit, ou l'artisan qui a un savoir-faire et qui a envie de partager ce savoir-faire donc avec les participants, quoi.
Et donc voilà, alors vous qui êtes des spécialistes de la mobylette, vous avez des préférences, des modèles d'exception, la mobylette de référence?
Moi je costume un petit peu les mobylettes. Je garde d'origine, mais
un petit peu de moteur boosté pour avancer un peu plus vite.
Ça fait partie de la culture mobilette, ça. Hein.
C'est ça.
Booster le moteur depuis c'est toujours.
Ça.
Hein,
ça, c'est ça.
Ça, c'est, ça, ça va
être plus animation parce que voilà, j'anime les festivités qui vont avec.
D'accord. Et toi, Jean-Marie, une mobilette de prédilection
Moi, celle que j'aime bien en ce moment, c'est celle qu'on voit là, donc la SP90. C'est un modèle espagnol, du coup. Motobécane avait donné une licence aux Espagnols pour qu'ils puissent fabriquer des mobilettes sous la marque Mobilette Motobécane. Et du coup, celle-ci, elle vient directement d'Espagne. J'ai restauré, c'est un modèle pour faire de la route qui est très bien, quoi. Super confortable, une 7 biplace. Donc on peut partir loin, sachant qu'avec le plein, on peut faire 250 km. Quoi.
Et ça, c'est quoi? C'est 5 litres, 10 litres?
C'est même pas 5 litres.
Non, pas 5 litres.
Ouais, c'est 4 litres et quelques.
Ça fait rêver, 4 litres et quelques, 250 bornes. Ouais. Ça fait rêver aujourd'hui.
Ah bah ouais. Hein.
Tout à fait. Vous allez organiser ce soir, je crois, une course de lenteur, c'est ça?
C'est, ouais, demain à partir de 14h.
Ouais.
Donc il y aura une course de lenteur. Donc avec 4 participants de front, le but ça sera d'arriver en dernier sans mettre le pied par terre et sans pédaler.
Allez, c'est parce que là on a de la mobilette à pédale. C'est oui. Quand même tout l'intérêt de la mobilette, voilà. C'était de pouvoir démarrer en pédalant.
Voilà.
Et il y avait des techniques d'ailleurs. Hein.
De pédaler en côte aussi quand le moteur.
Ouais, pour l'aider. Ouais.
Pour l'aider, quoi.
Pour l'aider un peu, c'est ça. Et bien, merci à vous, messieurs. Et je ne peux pas me priver du plaisir. Vous voulez pas en démarrer une qu'on se quitte en mobilette, tout ça. Là, c'est la fin de notre émission.
On peut en démarrer une.
Ah ouais, super. Eh non, mais j'en rêve. En fait, depuis tout à l'heure, on voit passer. On dit non, les mecs, il faut qu'on prenne le son d'une meule. Il n'y a pas à chipoter. Nous, on va se quitter là-dessus sur un son de mobilette. Parce que c'est trop la classe de se quitter sur un son de mobilette. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, on va aller voir laquelle nous ont-ils préparé pour le son. Alors, on va essayer d'avoir un peu de longueur de câble. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Alors, c'est laquelle, celle dont on va entendre le son?
Alors, c'est une mobilette 40V de Constantino, un peu boostée et un peu améliorée avec...
Une grande classe, en fait, avec ça.
Bah, le but, c'est de se faire voir, donc il faut faire du bruit, quoi.
Eh bien, exactement. Bah, merci à vous, Jean-Marie et Constantino. Et bien, nous, on va se quitter en mobilette, alors. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de nos programmes, parce qu'ils sont cool, en fait.